télépathie. Marc Menant.
Oui, Jackie, avec Pascal Lafargue, et puis également un psychiatre, hein, le docteur Bernard Auriol. Alors, au 01 42 32 15 15, nous avons Franck, qui est infirmier. Franck, bonjour.
Oui, bonjour.
Et votre réflexion nous a semblé des plus séantes, et donc nous vous demandons de nous la communiquer. Allez-y, en toute liberté.
Alors, j'espère que je ne vais pas trop casser la baraque.
Cela dit, casser la baraque, ça peut au contraire être signifiant pour vous. Casser la baraque, oui. Ça peut être très valorisant. Hein.
Oui. Non, la première réflexion qui m'est venue, finalement, c'est quelque chose d'assez général, surtout en parapsychologie. Je veux dire, avant de discourir sur un phénomène, il serait intéressant de se demander si vraiment le phénomène existe en tant que tel.
C'est pour ça qu'il mène des expériences, oui. D'un côté comme de l'autre.
Oui.
Là, hein.
Ceci dit, bon, moi, je suis infirmier, je travaille dans le domaine paramédical et j'ai eu une certaine expérience aussi en psychiatrie en tant que soignant. Et bon, j'ai tout à fait été attentif à la réflexion de monsieur qui est psychiatre.
Oui, le docteur
voilà, c'est vrai que dans la psychose, dans la schizophrénie, on observe certains phénomènes qui apparemment sont très proches d'une sorte de lecture de la pensée, mais qui en fait s'explique très bien dans un contexte d'attente, d'intentionnalité et d'angoisse extrême. Alors, tout à l'heure, lorsque j'ai appelé, je citais Jung qui a parlé de synchronicité. Mmh. Et c'est très intéressant finalement d'essayer d'expliquer.
La synchronicité, pour ceux qui découvrent, hein, parce que c'est pas toujours évident, c'est simplement les coïncidences,
voilà.
Ce qui font qu'à un moment donné...
les hasards significatifs,
voilà.
Finalement.
Mmh.
Et bon, j'avais deux exemples comme ça. Le premier exemple qui est assez connu, qu'on trouve cité dans plusieurs ouvrages. Deux personnes habitent, je sais pas moi, 80 km de distance, par exemple. Et puis, l'une pense à l'autre. Et puis, hop, le téléphone sonne, et puis, c'est la bonne personne.
Alors, voilà, c'est ce que l'on a dit.
Voilà, ça paraît surprenant. Et finalement, quand on observe un peu ce qui se passe, par un interrogatoire, par une étude de ce qui se passe autour, on s'aperçoit que les deux personnes écoutaient la même radio, qu'à ce moment-là, il y a une chanson qui est passée, et que cette chanson a fait le lien, a rappelé l'autre personne. Et puis bon, bah, à ce moment-là, je veux dire, les personnes avaient le temps de s'appeler, et puis ce sont des choses, somme toute, assez banales.
Alors, je vous coupe une seconde, oui. Parce que ce qui est intéressant, au 01 42 32 15 15, il y a Elisabeth qui nous dit, voilà, moi, lorsque je pense très fort à des amis, parfois, je les appelle, ça ne répond pas. Donc on peut se dire, effectivement, bon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, bizarrement, à chaque fois, ces personnes me rappellent quelques instants plus tard.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que là, elle dit, en l'occurrence, télépathiquement parlant, j'aurais adressé un message, même s'il s'est matérialisé par une sonnerie, mais il n'était pas au bout, ce sont eux qui finissent par répondre. Je pensais qu'il était intéressant de vous couper pour formuler ça, parce que ça va un peu à contrario de ce que vous veniez de formuler.
Bah. Je ne sais pas, parce que finalement, dans le il y a un autre élément qui est important. Dans une relation dite télépathique entre deux personnes, entre trois personnes, il y a toujours un lien relationnel qui est très fort. Et ce lien relationnel, en fait, est une sorte de canal. Bon, il y a Jacques Salomé qui a parlé beaucoup de cette histoire. Hein. Dans un dialogue à deux, on est trois, parce que le troisième, c'est le lien relationnel. Donc, il y a un canal chargé de sens. Et là, on est toujours dans la subjectivité. Dans la subjectivité la plus complète, c'est la personne, c'est les personnes concernées qui vont donner un sens au phénomène qui arrive. Je vais vous donner un exemple.
Ce sera le dernier.
Pardon.
Ce sera le dernier, allez-y.
Je ne sais pas. Mais bon, moi, il y a quelques temps, j'ai prêté un ouvrage à une amie, un ouvrage qui s'appelle Le Papillon Noir. Et puis le temps a passé, et c'était l'été, la journée était belle, la fenêtre était ouverte, et j'étais en train de, je sais pas, de rêvasser dans un fauteuil. Et à ce moment-là, il y a un papillon qui rentre dans la pièce, un papillon sombre, hein, noir, et juste à ce moment-là, il y a cette personne en question qui appelle en disant, mais il faut absolument que je te rende ton ouvrage. Bon, là, on pourrait dire, bon, bah, ça y est, c'est un pur phénomène de télépathie. Or, c'est un pur phénomène de synchronicité. Je veux dire, ce sont des événements qui arrivent comme ça, un peu par hasard, et finalement, c'est moi qui ai donné du sens à cette...
C'est ce que disait tout à l'heure le docteur Auriol,
oui.
C'est-à-dire que dans un univers où nous percevons des milliards d'informations à chaque seconde, nous n'en retenons quelques-unes, sinon d'abord ce serait invivable,
oui.
Et c'est ce qui donne de la force à ce que nous avons décidé,
voilà.
De retenir, d'accord.
Oui, et puis en dernier, on parlait de probabilité aussi, il faut savoir que le mot impossible en probabilité n'existe pas, quoi. Même s'il y a une chance sur un milliard, cette chance tombera à un moment donné, quoi.
Voilà, c'était la chance ce matin de vous exprimer pour vous, alors qu'il y avait 100 personnes qui appelaient. Eh bien, mais merci mille fois de votre témoignage. L'histoire du papillon, elle est très belle. Alors, on va essayer de s'intéresser maintenant à la télépathie, en dehors de toute psychologie. Est-ce que le phénomène télépathique peut se traduire avec les végétaux? Alors là, je me tourne...
Il y a des expériences qui ont été menées, c'est-à-dire en émettant sur des plantes des musiques ou des pensées agressives, eh bien la plante, comment dirais-je, dépérissait. Alors bien sûr, ça a été fait pas sur une journée, ça a été fait sur une semaine, sur des mois, la plante dépérissait. En revanche, en mettant des musiques douces et en envoyant des pensées positives, eh bien la plante effectivement devenait plus belle et...
Alors moi je vais dissocier, hein, parce que j'aime bien chipoter. La pensée positive, oublions-la deux secondes, restons avec les musiques. D'un côté extrêmement langoureuse, douce, etc., positive, et puis les musiques destructrices. Mais là, je dirais que ce sont les décibels qui ont une incidence, c'est pas spécialement de la télépathie. Il y a une sorte de phénomène vibratoire
Il y a un phénomène vibratoire, c'est vrai, de par le son qui est envoyé, mais il y a aussi le travail télépathique qui est fait, l'influence qui est faite sur la plante, et en collant des petits émetteurs comme ça sur la plante, d'ondes, en fait, des petites... qui permettent d'envoyer le son, pardon, et en envoyant également par télépathie, c'est-à-dire en voulant que la plante se détruise, en envoyant des pensées négatives en télépathie, qu'elle se pourrisse, qu'elle se désintègre, la plante effectivement commence à noircir, à verdir au niveau des feuilles.
Alors pour retenir le phénomène télépathique, moi qui vous entends, je dis... D'accord, à une seule condition, c'est que quelle que soit la musique, ce soit la pensée qui l'emporte. C'est-à-dire que je ne peux juger du phénomène télépathique que si c'est ce qui est muet qui a une action véritable. Parce que sinon, oublions la musique et voyons si effectivement, en regardant une plante tous les matins, en lui disant « que tu belle ma petite... » etc. Là, il se passe quelque chose ou pas, docteur Auriol?
Mais écoutez, je ne suis pas compétent, je peux pas.
Bon. Oui. Les belles plantes ne vous intéressent pas.
si,
donnez-moi les adresses,
je profite. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont la main verte, dit-on, mais ça doit être un phénomène assez complexe. Il y a des expériences qui ont été faites, dont on parle tout le temps, mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été beaucoup reproduites. Donc
il y a même au-delà de ça, je dirais, un phénomène d'énergie dans l'ambiance d'une maison qui est propre à la personne aussi, par rapport à son état. Si la personne est mal dans sa peau, si elle est mal, automatiquement, elle va émettre des pensées négatives. Donc tout son entourage, que ce soit minéral, végétal, enfin, et animal, et même les personnes, donc vont subir cette influence négative.
Alors là c'est peut-être, on va bientôt arriver à la conclusion, gardons cet angle, il me paraît très intéressant, c'est l'incidence de nos pensées sur ce qui se passe autour de nous. Et donc à ce moment-là, la réceptivité des autres. Donc effectivement, un lien télépathique. Il est vrai que quand un groupe est parasité par un élément ronchon, il y a une sorte de perte d'énergie. C'est pour ça que dans les sociétés, il y a la dynamisation éventuellement avec de grandes fêtes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là, effectivement, un moyen de se galvaniser tous les jours en essayant de se concentrer et de trouver des phénomènes galvanisateurs et de lier les uns et les autres à travers une pensée? Peut-être d'ailleurs ce qui fait que la prière est efficace pour certains.
Oui, tout à fait.
Oui, des gens comme par exemple des gens qui pratiquent des techniques de méditation ont prétendu que si un certain pourcentage de la population pratique ces techniques, il va y avoir une amélioration de l'ambiance générale de la société et une diminution de la criminalité, des accidents, etc. Alors, je ne sais pas où en sont ces études, si elles ont été également menées par des gens qui ne seraient pas en appartenance à ces mouvements, parce qu'il y a toujours le danger d'un biais lié à l'intérêt qu'on porte à la méditation. Mais dans tous les cas, ça n'est pas complètement déterminant pour savoir quel est le mécanisme qui joue. Est-ce que c'est un mécanisme, si c'était le cas, si ces phénomènes s'avéraient réels, est-ce que c'est un mécanisme de diffusion de la positivité de la conscience des gens qui méditent, qui imprégneraient leur environnement? Ou bien tout simplement, est-ce que ces gens, par la pratique de ces techniques, sont plus soft, disons, qui sont moins agressifs, et que, de même qu'un petit cristal dans une solution peut déterminer que toute la solution cristallise, de même, il se pourrait que si quelques personnes, ici ou là, sont, comme dirait l'Évangile, le sel de la terre, il va y avoir une amélioration dans leur environnement. Enfin, je dis l'Évangile, mais beaucoup d'écrits.
Pourquoi vous n'avez pas ce type d'expérimentation à Toulouse, à l'université, avec Linon et Pierre Massias, et puis vous, de votre côté, Pascal Lafargue? Pourquoi, au-delà de prendre une liste de mots et puis de choisir tel mot, etc., vous ne cherchez pas à savoir quelle incidence la pensée d'un être peut avoir sur les autres, et en étant dans deux pièces différentes?
Mais vous savez, il y a un grand nombre d'expérimentations possibles. La recherche AGAP s'est basée sur l'idée que le groupe pourrait parfois avoir un résultat meilleur que les individus, ce qui probablement n'est pas juste, et que le phénomène de vote pourrait augmenter, diminuer, si vous voulez, le bruit. En réalité, il n'en est probablement rien. Mais on ne peut pas faire toutes les expériences. Nous avons obtenu de la Fondation Audier de psychophysique de Genève une petite participation financière qui nous a permis d'acheter les ordinateurs, les appareils, etc. Et c'est pourquoi nous menons cette expérience jusqu'au bout. Après, on verra, peut-être votre idée sera ensuite la prochaine expérience.
Parce que ça nous permettrait déjà de savoir pourquoi il y a des esprits faibles ou des esprits forts. Mmh. Qu'est-ce qui fait que soudain, il y a un être comme ça? Alors, on appelle ça le charisme, à la limite. Mais au-delà d'une expression, il y a des gens, bon, il y a le tribun, c'est vrai, mais il y a des gens comme ça qui fascinent et on a l'impression que tout de suite, les autres sont en réceptivité. Est-ce que ça se... pourrait s'assimiler à la télépathie? Est-ce que ça se vérifie dans les expériences que vous pouvez mener?
Je ne peux pas dire que ça rentre complètement dans le domaine de la télépathie. Je veux dire, quelqu'un qui a un fort charisme, qui a une forte personnalité, qui dégage certaines choses, ça correspond peut-être à une attirance. Je veux dire, les gens sont peut-être en recherche et en demande de cela, donc va s'intéresser à la personne. Je ne crois pas que ça rentre vraiment dans le domaine de la télépathie. Je crois que de par la personnalité, de par ce que dégage la personne, va attirer certaines personnes qui eux-mêmes sont en demande de ça et vont vouloir aller vers cette personne pour faire soit un bout de chemin avec elle et comprendre certaines choses et apprendre aussi certaines choses. Maintenant, parler de télépathie par rapport à cela...
Alors, comme on est à une minute de la fin du match, j'aimerais simplement, on va terminer, qui ne guette pas l'amour s'il ne l'a connu, est-ce que lorsque l'on est là, face à soi, en se disant quelle est la femme idéale ou l'homme idéal à trouver, si on arrive à le schématiser, croyez-vous que par télépathie, on va finir par générer la situation qui vous amènera le prince charmant
alors,
ou la princesse?
J'ai pas envie de dire par télépathie, mais par pensée positive, par pensée créatrice. C'est-à-dire que et vraiment, si on a un objectif, on le veut et on y croit, et c'est-à-dire on y croit non pas avec l'intellect, mais avec le cœur, c'est-à-dire quelque chose que l'on veut vraiment réaliser, et dans le domaine du raisonnable, bien évidemment, eh bien, effectivement, on peut projeter une image, on peut projeter un désir très fort, c'est ce qui s'appelle la pensée créatrice, afin d'arriver à son but et d'y arriver définitivement. Et c'est ça qui est important. À mon avis, ça ne rentre pas dans le domaine de la télépathie, mais dans le domaine de la pensée créatrice, bien entendu quand ça reste dans le domaine du raisonnable.
Alors je dis à tous ceux qui avaient rendez-vous avec Claudia Schiffer, à partir de la semaine prochaine, elle est plus libre parce qu'elle a reçu le message. J'étais tellement positive à force d'y penser, ça va se réaliser. Vous y croyez-vous à cette idée des pensées? Je pense qu'on fera un jour une émission.
Je dis bien dans
la
limite du domaine du raisonnable.
Moi, je vous remercie, ça fait plaisir. Docteur.
Mais vous savez, nous sommes toujours à la poursuite justement d'une forme d'idéal, de quelque chose qui nous remplirait complètement, qui serait du style il n'y a aucune hostilité entre moi et la réalité, par exemple, où tout se tiendrait, où tout serait merveilleux. Et c'est vrai que ce type de recherche est souvent mené avec un peu cette perspective en arrière-fond. Et la proposition que vous faites de trouver l'homme idéal ou la femme idéale, selon ce qu'on cherche,
une sorte d'illusion,
un avatar en tout cas
restons dans le rêve. La semaine prochaine nous aurons des sorcières et des sorciers, ce sera le thème. Nos vies oubliées de Pascal Lafargue aux éditions JMG. Il est midi, le journal avec Patrice Belin.